Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Morienval avec Camille Bazire du Sageba. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous raconter ce que c'est que l'eau dans le bassin de l'automne, voilà, ce que vous avez envie de nous dire sur les eaux souterraines, etc.
Bonjour, Camille Bazire. Effectivement, je travaille au Sageba. Le Sageba, c'est le syndicat d'aménagement et de gestion du bassin de l'automne.
Vous y êtes depuis combien de temps ?
Je suis arrivée en 2019 et je suis chargée de mission protection de la ressource en eau souterraine. Alors le Sageba est porteur du SAGE, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux et qui indique différents enjeux par rapport au territoire, avec notamment des enjeux pour la rivière l'Automne et ses affluents comme la Sainte-Marie.
Qui passe à Auger-Saint-Vincent donc.
Et qui nous intéresse aujourd'hui, ouais. Tout à fait. Mais également les zones humides et aussi les eaux souterraines qu'on ne voit pas, qu'on a peut-être un peu plus de mal à s'imaginer, mais qui est très important parce que c'est dans ces eaux souterraines que toute la population de l'automne est alimentée au robinet. On ne la voit pas, mais quand on ouvre notre robinet, on est très content de...
Elle est surveillée, donc j'imagine pas mal, quoi.
Oui, totalement. L'eau distribuée est très surveillée et moi, justement, mes missions, c'est de préserver l'eau de la nappe avant même la distribution à la population.
Oui, donc du coup, cette eau qui arrive au robinet des habitants de l'automne, elle peut être souillée, polluée de différentes manières.
Effectivement, il y a différentes sources de pollution qui existent. Il y a tout ce qui est nitrate, phosphore ou produits phytosanitaires qui peuvent provenir effectivement de l'agriculture, mais pas seulement, ça peut provenir d'industriels.
Oui. Est-ce que ça peut faire du chemin, en fait, les pollutions de toute façon dans l'eau ?
Pour polluer les rivières, c'est surtout par ruissellement, mais pour arriver jusqu'à la nappe, il faut que ces pollutions s'infiltrent, traversent les couches du sol pour arriver jusqu'à la nappe.
Elle est à combien de profondeur, la nappe, en général ?
Il y a deux sortes de nappes. Une nappe qui est plus superficielle, c'est-à-dire moins profonde, et qui est entre 6 mètres à 15 mètres de profondeur. Ça, c'est la nappe dans les calcaires du Lutétien. Il y a une deuxième nappe principale sur le bassin, c'est l'eau qui est située dans les sables du Cuisien. Voilà.
C'est les nappes très profondes,
plus
ça.
Plus profondes, jusqu'à 80 mètres de profondeur.
Ouais, donc ça veut dire qu'elles sont difficilement atteignables quand même par une pollution, quelle qu'elle soit, non, j'imagine. Mm-hmm.
Et en plus, elles peuvent être protégées par une couche d'argile qui reste plus ou moins imperméable. Et donc souvent, les calcaires du Cuisien sont de meilleure qualité.
Et les nappes phréatiques, on en entend beaucoup parler, enfin, je veux dire, elles peuvent s'épuiser ou pas ?
Elles peuvent s'épuiser, tout dépend de la pression quantitative pour l'irrigation, pour l'alimentation.
La pluie
potable,
aussi, tout simplement.
Que subit ces nappes. Effectivement, ouais. Il y a un phénomène naturel où chaque hiver, lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre et rejoint la nappe et participe à sa recharge. Et c'est exclusivement les pluies hivernales qui participent à recharger les nappes.
Ah oui, pas du tout que l'orage qu'on vient d'avoir, par exemple, la nuit dernière, en fait.
C'est ça. En été, c'est plutôt la végétation qui va profiter de ces précipitations. Sur l'automne, la nappe se recharge quasiment entre octobre et avril. Et à partir d'avril, la nappe commence à se vidanger. On peut voir le sol comme une éponge. Quand l'éponge est totalement sèche, ça peut peut-être correspondre aux périodes de l'été. Et quand il pleut, ça permet de remplir, d'humidifier l'éponge. Et lorsque l'éponge est complètement saturée en eau, on voit l'eau qui tombe de notre éponge. Ce moment-là, ça correspond à l'hiver. Quand le sol est complètement plein comme l'éponge, l'eau continue de s'infiltrer dans le sol et rejoint la nappe.
Est-ce qu'on parlerait un petit peu d'Auger-Saint-Vincent, puisque c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que vous auriez à me dire sur l'eau à Auger-Saint-Vincent ?
Alors, à Auger-Saint-Vincent, il y a à la fois la rivière La Sainte-Marie et les captages qui servent à alimenter 14 communes du bassin.
Donc, Crépy-en-Valois, je crois.
Donc, Crépy-en-Valois, ouais. Effectivement. Et ça représente plus de 20 000 habitants, soit près de 40% de la population du bassin.
Et pourquoi il y a autant de captages à Auger-Saint-Vincent ?
Ça, c'est plus par rapport à des études d'hydrogéologues qui ont estimé que les nappes qui étaient présentes pouvaient fournir quantité suffisante pour alimenter
14 communes.
C'est ça.
Et donc, vous travaillez aussi sur la commune d'Augé-Saint-Vincent, j'imagine, par rapport à CENAP.
Totalement. C'est le syndicat d'eau d'Augé-Saint-Vincent qui est gestionnaire des captages. Mais moi, j'interviens en tant qu'assistante à maîtrise d'ouvrage et pour œuvrer à préserver la qualité de l'eau. Voilà, donc en partenariat avec le syndicat.
Et vous avez des choses à nous dire sur la qualité de l'eau ?
En fait, à Augé-Saint-Vincent, il y a 4 captages. Il y en a 2 qui puisent l'eau dans la nappe des calcaires du Lutétien, donc la nappe la moins profonde.
Ouais.
Ces captages-là sont donc plus vulnérables aux pollutions. Et c'est par rapport à ces captages-là que moi j'interviens pour préserver cette nappe-là. Et il y a également 2 autres captages qui puisent l'eau dans la nappe la plus
du
profonde.
Du Clusien.
C'est ça, dans les sables, où cette eau-là est de très bonne qualité. Et le fait de mélanger l'eau qui est prélevée dans ces 4 captages-là, ça permet d'obtenir par dilution une eau de bonne qualité.
Ah ouais, pas mal.
Entre 25 et 30 mg par litre. Donc c'est tout à fait de bonne qualité pour la population, sachant que la norme en nitrate aujourd'hui c'est 50 mg par litre. Donc l'eau du robinet, il n'y a pas de problème, au contraire, autant la consommer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Est-ce que vous voulez nous parler de la Sainte-Marie davantage ?
Oui, tout à fait. C'est la rivière, c'est le principal affluent de l'Automne. Elle mesure près de 10 km et rejoint l'Automne au niveau de la commune de Rouy. Et c'est une rivière importante parce que c'est la seule masse d'eau en bon état sur le bassin. Bon état au niveau biologique, chimique et physique. Bon, effectivement, ça peut toujours être amélioré, mais par rapport à cette classification avec les comités de bassins, d'agences de l'eau, etc., c'est la seule masse d'eau qui est en bon état. Donc, toujours à préserver et à améliorer, bien entendu.
La seule masse d'eau, ça fait un peu peur, ça, qui est en bon état. Ça veut dire quoi ? Il y a d'autres affluents qui sont pas en bon état, en fait, c'est ça ?
C'est ça, ça veut dire qu'il y a d'autres affluents qui sont en état moyen, voire médiocre. Là, il y a beaucoup plus de travail de restauration à mettre en place pour la qualité de l'eau. C'est le travail de mon collègue Christophe Leto, où justement, oui, c'est des projets à mettre en place en concertation avec les acteurs du territoire et pour oui, améliorer la qualité de l'eau. Ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années.
Mais donc, du coup, ça veut dire que les rivières qui sont protégées comme celle-là, on peut pas se baigner dedans, en fait. Est-ce qu'on peut se baigner dans l'automne ?
Non plus.
Mais alors qu'on n'a pas le droit de se baigner dans les rivières du coin, en fait, c'est ça ?
C'est ça. Dès qu'il fait beau, on a envie de s'y baigner, de construire des barrages avec les pierres. On a tous fait ça peut-être quand on était enfant, mais en fait, ça perturbe le milieu, le lit de la rivière, les poissons, etc.
Par rapport à la Sainte-Marie, donc vous disiez que c'était une rivière de très bonne qualité. Vous avez envie de nous dire ce qu'on y trouve ?
C'est une rivière de bonne qualité, oui, c'est notamment une rivière de catégorie 1. Ça veut dire que c'est une rivière où on peut retrouver des truites. Et il y a notamment des pêches qui sont effectuées tous les ans pour répertorier un peu les poissons qu'il y a dans la Sainte-Marie.
Est-ce que vous travaillez de manière proche avec le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie ?
Tout à fait, et justement, notamment par rapport aux zones humides. Les zones humides au niveau de la Sainte-Marie sont également de bonne qualité, notamment au niveau de la biodiversité, entre autres parce que c'est une zone où il y a peu de cultures de peupliers. Et puis, par exemple, pour témoigner de la bonne qualité de la zone, à une époque, il y avait une activité de production de cresson. Donc ça, c'est une plante qui témoigne effectivement.
C'est une preuve de la bonne qualité des zones.
C'est ça.
Et les peupliers, en revanche, qu'est-ce que ça fait dans ces zones ?
Pour pouvoir planter un peuplier, souvent le sol est drainé. Et comme il y a le peuplier, il y a peut-être quelques espèces herbacées au sol. Mais c'est tout. Donc là, au niveau de la biodiversité, c'est très restreint.
C'est rien du tout, quoi, en fait. Parce qu'il y a des plantations de peupliers, en fait, aussi, un petit peu partout. Quoi, c'est une exploitation.
Sur la vallée de l'Automne, effectivement, c'est une exploitation, mais c'est pas... Historiquement, les peupliers se faisaient, entre autres, dans la vallée de l'Automne,
donc
qui sont en zone humide. Mais justement, mon collègue de zone humide, Victor Weigert, œuvre par rapport à ça, pour préserver les zones humides dans le cadre d'un projet pluriannuel de restauration de la rivière et des zones humides. Il y a un certain nombre de travaux, de projets, d'études qui sont prévus pour améliorer à la fois la rivière et les zones humides.
Les zones humides, c'est surtout pour la biodiversité, en fait, hein, la végétation qui pousse naturellement.
Pas uniquement, ça sert de zone tampon. Quand la rivière déborde de son lit, etc., la zone humide sert totalement comme une éponge pour un peu résorber ces débordements, entre autres, de rivières ou de choses comme ça, et éviter les pollutions. Donc, les zones humides sont très importantes à préserver. Elles ont un grand rôle par rapport à la prévention des inondations. Et notamment en milieu urbain, où c'est un enjeu qui se construit totalement en concertation avec l'ensemble des acteurs.
Est-ce que les agriculteurs sont réceptifs par rapport à ce qu'on leur raconte sur la pollution des nappes phréatiques à cause d'intrants chimiques ?
Forcément, ils se sentent concernés, mais lorsqu'il y a un captage qui est notamment vulnérable aux nitrates et aux pesticides, il y a des diagnostics qui sont faits pour répertorier toutes les pressions. Donc il y a des pressions agricoles, mais il y a aussi les pressions liées à l'assainissement collectif, les assainissements non collectifs avec les fosses septiques, etc. Par rapport à mes missions, où c'est l'animation des territoires, moi j'interviens sur ce qu'on appelle des aires d'alimentation de captage. C'est une zone de territoire qui a été définie et où toute goutte d'eau qui tombe s'infiltre, rejoint la nappe qui participe à alimenter le captage. Sur cette zone-là, différents acteurs sont répertoriés et moi après je travaille en concertation pour faire de la sensibilisation, pour mettre en œuvre des pratiques qui ont un impact bénéfique pour la qualité de l'eau, notamment avec les agriculteurs. Donc c'est comme tout projet, c'est du travail de longue haleine.
C'est une médiation en fait aussi un petit peu, non ?
Oui, totalement. Ouais. Totalement.
Et donc ça se passe comment ? Il y a une réflexion commune, j'imagine, de toute façon, aussi avec les industriels, les habitants, s'il y en a qui polluent plus que d'autres, enfin je sais pas, tout ça, il y a une réflexion commune, non ?
Tout à fait, et au niveau des aires d'alimentation de captage, c'est uniquement du volontariat. Donc on travaille avec les acteurs qui ont envie de s'engager et de mettre en place des changements de pratiques pour œuvrer vers la préservation et la reconquête de la qualité de l'eau. Après, à nous de...
Convaincre.
De convaincre, mais...
D'expliquer, en fait,
c'est
tout simplement. De donner des informations concrètes.
Et de montrer qu'on ne jette pas du tout la pierre et que... Au contraire, c'est une opportunité pour travailler avec les acteurs du territoire et mettre en œuvre des projets qui peuvent être bénéfiques d'un point de vue environnemental, mais pas seulement aussi économique, avec la construction de projets de filières, de nouvelles cultures...
Oui, mais parce qu'en fait, moi, j'avais envie d'avoir un exemple concret. Si vous adressez un agriculteur qui met trop de, je sais pas, de nitrate dans le sol, etc., est-ce qu'il va mettre moins d'intrants dans son champ ou pas du tout, alors qu'il pollue un captage qui est à côté Est-ce qu'il est réceptif vraiment à, par rapport à des informations que vous lui donnez? Ça dépend desquelles, j'imagine, vous allez me dire.
Oui,
aussi.
Bien entendu. Ouais. Justement, depuis que l'animation est mise en place depuis 2014, il y a eu tout un observatoire qui a été mis en place. Pour justement connaître davantage la dynamique de l'azote. Donc l'azote, c'est la molécule qui participe, enfin les nitrates, on va dire. Voilà, comment ça arrive à la nappe.
Ouais, ça arrive toujours à la nappe. C'est une bonne question, ça.
En hiver ?
Est-ce que ça peut rester... Oui, en hiver. Est-ce que ça peut rester suffisamment en surface pour que ça n'atteigne pas la nappe
Mais s'il y a des molécules qui ne sont pas décomposées, il y a des molécules qu'on retrouve davantage dans les eaux de surface parce qu'elles arrivent par ruissellement, et d'autres qui sont solubles dans l'eau et donc qui s'infiltrent et rejoignent la nappe.
Donc, est-ce qu'il y a une réceptivité, en fait ? C'est toujours ma question.
Oui, ouais. Totalement. Justement, par rapport à ces observatoires, ça permet de comprendre les parcelles agricoles qui sont en sable, donc les zones où il y a le plus de risque que l'eau rejoigne la nappe, et donc les zones où l'enjeu est le plus important. Et
oui,
les
ça zones dépend où il des territoires, en fait.
Oui, c'est ça.
Merci, Camille. Anne-Laure pour RVM, j'étais avec Camille Bazir, qui est chargée de mission au SAGEBA, au SAGE, syndicat d'aménagement et de la gestion des eaux, dans le bassin de l'Automne. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.